Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite un excellent sabbat reposant. Nous sommes familiers avec les systèmes d'alerte, les systèmes d'alerte précoces face à des tremblements de terre, des tsunamis, ce genre de choses, et ces systèmes d'alerte sauvent des vies humaines, sauvent parfois beaucoup de vies humaines. Dans Matthieu chapitre 24, et nous pouvons faire le parallèle jusqu'à un certain point, dans Matthieu chapitre 24 et le verset 14, nous lisons, je lis seulement, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » C'est pour servir de témoignage. Tout le monde ne sera pas appelé à notre époque, mais Dieu prévient de ce qui va arriver. La bonne nouvelle, et bien entendu, lorsque l'Église prêche la bonne nouvelle, nous parlons également de la cohorte de souffrance qui va précéder cet avenir glorieux. Il y a des érudits qui estiment qu'un tiers, à peu près un tiers de la Bible, est composé de prophéties. Qu'est-ce qui est si important à propos de la prophétie? À quoi sert la prophétie? Que ce soit pour les croyants ou pour les non-croyants. Et aujourd'hui, donc, j'ai voulu vous parler de la prophétie. Et le titre de ce sermon, c'est « Que pouvons-nous apprendre des prophéties ?» Que pouvons-nous apprendre des prophéties? Et j'ai voulu vous donner trois choses que nous pouvons apprendre des prophéties. La première chose, c'est que les prophéties démontrent la justice de Dieu. Et ceci est destiné, bien sûr, à nous conduire à la repentance. Les prophéties montrent la justice de Dieu. Dieu est juste et Dieu ne fait point d'exception de personne parce qu'il est juste. C'est ce que nous lisons, je ne m'y rapporte pas, dans Deutéronome chapitre 10 et le verset 17. Deutéronome chapitre 10 et le verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception de personne, qui ne fait point exception des personnes, et qui ne reçoit point de présents, chose qui est si répandue dans nos sociétés, qui ne reçoit point de présents, mais qui fait droit à l'orphelin et à l'aveugle, parce que Dieu ne fait pas exception de personne, qui aime l'étranger, elle lui donne de la nourriture et des vêtements. Et nous lisons aussi dans Psaume 89 et le verset 15. Psaume 89 et le verset 15. Je n'y m'y rapporte pas non plus. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Nous voyons que Néhémie, à l'époque, avait une attitude exceptionnelle. Nous voyons comme il parlait de Dieu au milieu de la souffrance de son peuple, dans Néhémie chapitre 9 et le verset 32. Je m'y rapporte cette fois-ci. Néhémie chapitre 9 et le verset 32. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, il était conscient que Dieu était un Dieu de miséricorde, d'une très grande miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple, depuis le temps de des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu as été juste. Tu as été juste. C'était une vérité absolue. Tu as été juste dans tout ce qui nous était arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Il disait des choses telles qu'elles étaient. La responsabilité, le défaut, c'était avec son peuple, jamais avec Dieu. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Donc, il y a eu des prophéties qui ont été accomplies, qui ont été accomplies parce que son peuple, Juda, a fait le mal. Verset 34. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi et ils n'ont été attentifs ni à tes commandements ni aux avertissements que tu leur avais adressés. Dieu avait prédit qu'un certain nombre de choses allaient arriver. Ils avaient été avertis. Ils se sont pas détournés. Et lui, il est donc, Néhémie, il est honnête avec le péché de son peuple. Et pourtant, son peuple avait été averti de ce qui allait arriver. Verset 35. Pendant qu'ils étaient les maîtres au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi et ils ne se sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. Ils n'ont pas changé, ils ne se sont pas détournés de leur péché. Verset 36. Et aujourd'hui, nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Les prophéties ont un but aussi. C'est pour que les gens puissent se détourner de leur péché. Verset 37. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail et nous sommes dans une grande angoisse. Ils souffraient à cause du péché, à cause des péchés qu'ils avaient commis. Un des aspects principaux de la prophétie, c'est de nous montrer la cause et l'effet du comportement des êtres humains. De nous montrer la cause et l'effet du comportement des êtres humains. Dieu est juste. Et ceci, c'est dans un but. Dieu nous montre ces choses avant que les événements en question arrivent. Dieu avertit, et Dieu nous avertit aussi dans l'Église, et notre mission collective dans l'Église, c'est de prêcher l'Évangile et aussi d'avertir de ce qui va arriver. J'ai voulu parler de cette notion de cause et effet dans un contexte prophétique. Donc, un aspect principal de la prophétie, comme j'ai dit, les prophéties sont aussi un avertissement. Et nous voyons ceci dans Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Et du reste, nous pouvons comprendre d'autres prophéties qui sont données dans la Bible à la lumière de Deutéronome chapitre 28. Nous sommes familiers avec Deutéronome chapitre 28, en parallèle avec Lévitique 26, où il est question de bénédiction et de malédiction, où il est question d'obéir ou de ne pas obéir à Dieu. Dieu a donné ses instructions à Israël à l'époque, des instructions pour nous aussi, et nous voyons un mot-clé, le mot-clé dans le verset 1 et le verset 2, donc, Deutéronome chapitre 28 et le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en l'observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc, obéissance, bénédiction. Verset 2. Voici toutes les bénédictions. Il y a toute une liste. Voici toutes les bénédictions qui se reprendront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Le mot clé, c'est obéir. Et à partir du verset 3, Dieu précise comment ils allaient être bénis. Et c'était une prophétie. Et du reste, le mot obéir est traduit un peu différemment dans d'autres traductions. Dans le Darby, c'est marqué « Il arrivera que si tu écoutes attentivement ». Et le mot en hébreu est répété deux fois. Ça souligne l'importance. L'importance d'obéir ou d'écouter attentivement. Le crampon, la version crampon et Martin disent « si tu obéis exactement ». Et donc, Israël était soit l'artisan de ses propres bénédictions ou de ses propres malheurs. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure, plus loin dans le chapitre. Cette bénédiction, ces bénédictions sont arrivées à l'époque de Josué. Josué où le peuple obéissait à Dieu. Josué chapitre 24 et le verset 24. Nous lisons, je m'y rapporte pas. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Verset 31 du même chapitre. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Et nous pouvons voir le récit biblique. C'était une époque de bénédiction dans l'histoire d'Israël. Il n'y en avait pas beaucoup, mais c'était une époque de bénédiction. À l'époque de David, c'était pareil. Nous lisons dans 1 roi chapitre 15 et le verset 5. Je n'y m'y rapporte pas. 1 roi 15, 5. Car il avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie. Il a donc obéi à Dieu, excepté dans l'affaire d'Uri le Héthien. L'obéissance. Et nous voyons aussi avec, à l'époque de Salomon, que quand Dieu lui est apparu en songe, Salomon a demandé à Dieu, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. C'est le même mot en hébreu, un cœur intelligent. Dieu est juste. Et Dieu a béni Israël aussi à l'époque de Salomon, tout au moins au début de son règne. Le but, c'est aussi que les gens puissent évaluer leur conduite personnelle. Le but de la prophétie, c'est que les gens aussi puissent évaluer leur conduite personnelle. Et nous voyons dans Ézéchiel chapitre 33 et le verset 11, le point de vue de Dieu. Ézéchiel chapitre 33, et le verset 11, « Dis-le, c'est Dieu qui parle, « Dis-le, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, donc ce que Dieu veut, ce que Dieu désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Et ensuite, un genre de plaidoirie de la part de Dieu, revenez de votre mauvaise voie et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Notre Père, Dieu le Père, est un Dieu d'amour. un Dieu aimant. Et si nous sommes sur une mauvaise pente, s'il y a des châtiments par la suite, c'est pour nous encourager à nous détourner de notre mauvaise voie, de notre mauvaise conduite des péchés, de nous conduire vers l'obéissance à ces lois qui sont saintes et qui sont bénéfiques pour nous. Et à ce moment-là, Dieu va nous bénir. Toujours Ézéchiel chapitre 33 et le verset 17. Les enfants de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas droite, ils renversent les rôles, ils tournent la vérité, la voie du Seigneur n'est pas droite, c'est leur voie qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Dieu est juste. Verset 19. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. S'il emprunte la voie de la justice, Dieu qui est juste va lui pardonner et va le bénir. Verset 20. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Et Dieu a voulu que l'Évangile soit prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. Nous voyons aussi dans Ézéchiel à quel point Dieu est juste. Nous le voyons dans le chapitre 36 avec le rétablissement d'Israël. Nous le voyons vraiment dans le chapitre 37 avec la vallée d'ossements. Quand tous ceux à travers les âges qui n'ont jamais eu la chance de salut, qui n'ont jamais eu leur esprit ouvert par Dieu, seront ressuscités pour avoir leur chance de salut. Quand les livres vont être ouverts et chacun va pouvoir choisir individuellement, librement, ils auront leur chance du salut. Ça, c'est donc le premier point que les prophéties nous démontre, Dieu est juste et la justice de Dieu est destinée à nous conduire à la repentance. Le deuxième point que nous pouvons déduire, nous pouvons voir dans les prophéties, c'est que la prophétie démontre la puissance de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui prévaut. Et c'est aussi par la même occasion un encouragement pour nous. Dieu est omnipotent, c'est-à-dire le Tout-Puissant. Dieu règne suprême. C'est ce que nous voyons dans Daniel chapitre 2. C'est très, très clairement décrit dans Daniel chapitre 2. On va commencer avec le verset 35, si vous voulez bien. Daniel chapitre 2 et le verset 35, nous voyons ce qui arrive à cette statue avec l'intervention de Dieu, justement. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. La volonté de Dieu prévaut. Verset 44. Dans le temps de ces rois, donc l'interprétation de ce songe, le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce que Dieu a prévu et c'est ce qui va arrivé. Quand Gabriel a parlé à Marie pour annoncer la future naissance de Jésus, il a dit, en parlant de Jésus, « Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Ça démontrait la puissance de Dieu. Et nous voyons aussi dans Apocalypse chapitre 21, je ne m'y rapporte pas, Apocalypse chapitre 21 avec la nouvelle Jérusalem. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est la volonté de Dieu qui prévaut. À la fête des tabernacles, chaque année, nous visualisons ce que Dieu va réaliser, ce que la puissance de Dieu va réaliser. Nous avons un aperçu de cet avenir merveilleux. La volonté de Dieu va se réaliser. Le pourcentage des prophéties sur le millénium sont importants. Il y a des chapitres entiers qui parlent du millénium. Il y a dans Ésaïe, dans Jérémie, dans Ézéchiel, dans les petits prophètes, et il y a aussi dans le Nouveau Testament. Sa volonté, la volonté de Dieu, ses desseins, c'est ça qui prime. Et c'est ce que nous voyons dans Ésaïe chapitre 46 et le verset 9. À partir du verset 9. Ésaïe 46, à partir du verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu. Dieu est tout-puissant. Dieu est omnipotent. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu. Et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, donc des prophéties, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. Et j'exécuterai toute ma volonté. C'est Dieu qui parle. Verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Il n'y a que Dieu qui est capable d'éclairer ce qui va se passer à l'avenir et ensuite faire en sorte que la chose se réalise. Il déclare donc ce qui va arriver, et avec son omnipotence, il va faire le nécessaire pour que ceci se réalise. Le dictionnaire Robert définit l'omnipotent de la façon suivante, qui est tout puissant. Et l'Académie, le dictionnaire de l'Académie française dit, qui est tout puissant, à qui rien n'est impossible. Et j'avais parlé tout à l'heure de Gabriel, quand Gabriel parlait à Marie. Et quelques versets plus loin par rapport au verset qu'on a lu tout à l'heure, dans le verset 37, Luc chapitre 1 et le verset 37. Luc 1, verset 37. Nous lisons, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Dieu est omnipotent. Et Dieu révèle son plan pour l'humanité par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes. Amos chapitre 3, verset 7. Amos chapitre 3, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu nous a donc fourni un plan d'ensemble dans les Écritures. Dieu nous parle aussi des troubles qui allaient s'intensifier au temps de la fin, du fait de la multiplication de tous ces maux, de tous ces problèmes, de tous ces péchés des êtres humains. Il y a un verset qui est intéressant quand on voit, quand on parle de la puissance de Dieu, qu'il est omnipotent. C'est 1 Jean chapitre 4 et le verset 4. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, Dieu est en nous par l'intermédiaire de son Saint-Esprit, que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est pour ça que nous pouvons vaincre, parce que justement, nous avons la puissance de Dieu au-dedans de nous, si nous sommes convertis. Le Christ a dit, j'ai vaincu le monde. Nous aussi, nous pouvons vaincre le monde. Dieu est plus fort. Et c'est aussi la puissance de Dieu, le fait que la prophétie montre la puissance de Dieu, la volonté de Dieu, c'est aussi un encouragement pour nous. Dans Hébreux chapitre 10 et le verset 37. Hébreux chapitre 10 et le verset 37. Je voulais lire le verset 36, mais je commence avec le verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Nous savons que la souffrance va disparaître. Dieu l'a dit. Mais justement, dans ce contexte, mais je voulais lire le verset 37 avant, mais dans ce contexte, nous voyons aussi le verset 36, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Une exhortation de persévérer. Une exhortation de vivre par la foi. C'est ce que nous voyons aussi dans le verset 38. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est un encouragement parce que celui qui doit venir, va venir. Le Christ va revenir, ce qui nous annonce les prophéties. Et quand Dieu parlait à Abraham, il a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je m'y rapporte pas. C'est dans Genèse chapitre 17 et le verset 1. Dans Genèse chapitre 17 et le verset 1. Dans le premier livre de la Bible, et nous le retrouvons aussi, on va regarder si vous voulez bien, dans Apocalypse chapitre 4 verset 8, nous trouvons le même titre pour décrire Dieu. Apocalypse chapitre 4 et le verset 8, les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Il ne cesse de dire jour et nuit, donc il loue Dieu, Saint, 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 est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Dieu est le Tout-Puissant. Ça, c'est donc une deuxième chose que nous pouvons apprendre des prophéties. Et il y a une troisième chose, entre autres, c'est que la prophétie démontre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour son peuple et l'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu est amour. Et nous trouvons cet amour de Dieu dans le Nouveau Testament, mais aussi dans l'Ancien Testament. Nous sommes familiers probablement avec ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 23, verset 3. Je ne m'y rapporte pas. L'ammonite et le moabite n'entrent point dans l'assemblée de l'Éternel même à la dixième génération et à perpétuité. Et j'ai voulu vous parler de la lignée du Christ que nous trouvons dans Matthieu chapitre 1. Dans Matthieu chapitre 1 et le verset 5. Matthieu chapitre 1 et le verset 5. Matthieu nous donne la généalogie de Jésus au point de vue de son père légal, Joseph. Et du reste, si vous regardez le verset 1, toujours Matthieu 1, il parle de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Verset 5, Nassan engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Nous sommes familiers avec l'histoire de Rahab. Elle était une prostituée, mais elle a changé. Et Rahab est mentionné dans Hébreux chapitre 11. Il y a tout un verset qui lui est consacré. Et ça montre l'amour de Dieu. Dieu pardonne. Alors, je relis le verset 5. Nassan engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Ruth aussi était une étrangère, mais le Dieu d'Israël est devenu son Dieu. Et Dieu aussi a accepté Ruth. Dieu l'a accepté. Dieu travaillait avec Ruth et Dieu l'a béni, énormément béni. Je continue le verset 6. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David et ensuite il y a toute la suite de la généalogie jusqu'au Christ. Jusqu'au Christ. Nous savons que Ninive, les Assyriens, c'était une nation très cruelle. Et parmi les pages de l'histoire les plus sanguinaires, nous trouvons l'histoire de leur guerre. Ils crevaient les yeux, ils décapitaient, il y avait la brutalité de la torture, ils coupaient les membres, et je vous fais grâce à d'autres détails encore plus pénibles. L'historien Kriwakzek, si je prononce correctement, Kriwakzek, a dit ceci. On parlait, il parlait des rois, certains rois assyriens, des rois sanguinaires. Et ensuite, il a dit ceci, en parlant de ces rois, ils se classent dans l'imaginaire populaire juste en dessous d'Adolf Hitler et de Genghis Khan en termes de la cruauté, de violence et de sauvagerie meurtrière pure et simple. Ils brisaient leurs ennemis. Ils étaient connus pour leur violence. Une fois que Dieu a délivré Jonas de la grande poisson, nous voyons dans Jonas chapitre 3 verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. En Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, y criait et disait « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » La méchanceté de Ninive était grande et Dieu a décidé de détruire Ninive. Mais Ninive s'est repentie. Nous voyons ce que peuvent être les conséquences d'une prophétie prononcée. Les gens peuvent changer et les gens de Ninive ont changé. Ils ont changé profondément. Même si nous voyons plus tard qu'à l'époque de Nahum, le prophète Nahum, qu'il y avait de nouveau de la violence à Ninive. verset 10. Dieu l'a vu et Dieu a aussi changé. Changé ce qu'il allait faire. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de le faire et ne le fit pas. Ça lui fait penser à ce que nous avons déjà lu dans Ézéchiel chapitre 33. Dieu était sensible à leur changement. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais Dieu veut que le méchant change. Et les gens de Ninive ont changé. Tout ça dans un contexte prophétique qui montre, qui nous démontre l'amour de Dieu. Mais Jonas n'a pas agi de la même façon que Dieu. Chapitre 4, verset 1. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Et nous connaissons l'histoire que Dieu a fait croître un ricin. Ensuite, le ricin a séché. Verset 9. Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Jonas s'était endurci à ce moment-là, mais Dieu a voulu lui montrer l'amour, montrer l'intérêt pour autrui, même ses ennemis. Verset 10. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as même pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Le Bible Reader's Companion, donc c'est un commentaire biblique, dit que l'expression, je traduis en français, l'expression « ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche » se réfère à un manque de connaissance morale, venant du fait que l'Assyrie, on n'a pas accordé à l'Assyrie une révélation spéciale de la part de Dieu. Évidemment, les Assyriens n'avaient pas la connaissance, la même connaissance spirituelle qu'avaient les enfants d'Israël. J'ai voulu examiner avec vous quelque chose qui démontre vraiment l'amour de Dieu dans un contexte prophétique. C'est le 31e chapitre de Jérémie. Et c'est d'autant plus remarquable que nous connaissons les prophéties de Jérémie, à quel point certaines prophéties étaient très dures. Il y a la souffrance à l'avenir, mais au-delà de ces souffrances, nous voyons dans Jérémie chapitre 31 quelque chose qu'au début qui est poétique de la part de Dieu. Jérémie chapitre 31 et le verset 1. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, ils seront mon peuple. Israël qui aurait souffert énormément au préalable. Ainsi par l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Israël et nous ne pouvaient pas demander davantage. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. L'amour, la bonté de Dieu. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore des tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Il y aura des danses. Il y aura de la joie et le bonheur va déborder à ce moment-là. parce que Dieu est amour. C'est une prophétie où on voit l'amour de Dieu. Dans le verset 7, Dieu dit qu'a ainsi par l'Éternel poussé des cris de joie sur Jacob, éclaté d'allégresse à la tête des nations, élevez vos voix, chantez du louange et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Après leur punition et leur captivité, Israël va revenir repentant et contrit. Verset 9. Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël. Il va les traiter comme un père aimant. Et Ephraïm est mon premier-né. Verset 10. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Un berger est très attentif aux besoins de son troupeau. Voit ceux qui sont faibles. S'il y a éventuellement des malades, il voit, il est vraiment, vraiment attentionné. Verset 11. Car l'Éternel rachète Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie. Voilà la joie encore mentionnée. Des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers le bien de l'Éternel, le blé, le moût, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé, un jardin en bon état, un jardin prospère, un jardin magnifique qui respire. Leur âme sera comme un jardin arrosé et ils ne seront plus dans la souffrance. Dieu va prendre soin de son peuple. Dieu montre ici son amour dans une prophétie à l'avenir. Ils ne seront plus dans la souffrance. Verset 13. De nouveau, on voit la joie. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai le deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après le chagrin. Il y aura du bonheur dans le cœur des hommes. Verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici encore ce que l'on dira dans le pays de Juda et dans ses villes quand j'aurai ramené le captif. Quand l'Éternel te bénisse, demeure de la justice, montagne sainte. Là s'établiront Juda et toutes ses villes, les laboureurs et ceux qui conduisent les troupeaux. C'est une vie nouvelle, un avenir au-delà du péché et de la punition qu'ils ont subi. Le verset 26. Là-dessus, je me suis réveillé et j'ai regardé. Mon sommeil m'avait été agréable. Évidemment, d'avoir une telle vision de l'avenir, son sommeil était agréable. Et puis, à partir du verset 27, il y a cette partie de prophétie est divisée en trois sections. Et chaque section commence avec l'expression « Voici les jours viennent, dit l'Éternel. » C'est ce que nous voyons dans le verset 27. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel. » Et donc, cette première section continue le tableau du millénium de ce rêve prophétique. Verset 27. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence d'homme et d'une semence de bête. Verset 28. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je verrai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. Mais Dieu va, après la grande instruction dont la Bible parle aussi, Dieu va commencer à multiplier son peuple, son plan physique de nouveau, quand ils reviennent dans la terre promise. Il va aussi multiplier les animaux. Dieu a châtié son peuple, nous voyons ici dans ce passage que Dieu leur fait maintenant du bien, beaucoup de bien. Et il va veiller sur eux pour bâtir et pour planter. La deuxième section, c'est à partir du verset 31, de nouveau la même phrase. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. La version Darby traduit la dernière partie du verset 32 de la façon suivante. Mon alliance qu'ils ont rompue, quoique je les eusse épousés, dit l'Éternel, et le comprend alliance que ont rompue, quoique je fusse leur époux. Je continue à lire dans le verset 33. Mais voici l'alliance, donc cette nouvelle alliance que Dieu va donner, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et nous avons, nous dans l'Église, déjà cette possibilité d'avoir la loi de Dieu écrite dans nos cœurs. Il s'agit ici donc d'un changement du cœur humain. Ça va être une époque, une réalité magnifique. Et nous continuons à lire dans le verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. » Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Et nous voyons ici l'amour immense de Dieu. L'amour immense de Dieu. Nous arrivons à la troisième section où il est question d'utiliser la phrase « Voici les jours viennent, dit l'Éternel. » Et nous le trouvons dans le verset 38. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel. » Où la ville sera rebâtie à l'honneur de l'Éternel. Depuis la tour de Hananel jusqu'à la porte de l'angle. Et avec la nouvelle alliance, il y aura la reconstruction de Jérusalem. La prophétie biblique nous permet aussi d'évaluer notre propre conduite personnelle à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de ce que Dieu dit, mais cela nous aide à nous détourner du péché. Et en filigrane des prophéties, c'est ce que nous venons de voir, nous voyons la bonté et la miséricorde de Dieu, parce que Dieu espère que l'homme va changer. Mais nous avons le libre arbitre. Et Dieu veut qu'on l'écoute. Nous trouvons deux passages dans Apocalypse qui ont à voir avec le fait d'évaluer justement notre conduite personnelle par rapport à ce que Dieu dit et dans un contexte prophétique. Nous voyons ceci dans le chapitre 2 d'Apocalypse. Oui, la question des époques de l'Église. Et Dieu dit à l'Église d'Éphèse, au chapitre 2, Apocalypse chapitre 2 et le verset 5, parce qu'il y avait un problème. Et Dieu dit, verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres. Ensuite, le mot sinon, parce que si ceci n'allait pas avoir lieu, s'il n'allait pas changer, Dieu allait intervenir, sinon je viendrai à toi, donc c'était une prophétie, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Et puis nous voyons aussi dans Apocalypse chapitre 2 toujours, et le verset 16 avec l'église de Pergame, nous voyons de nouveau ce même mot employé, le mot sinon. Verset 16, repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que Dieu allait de nouveau intervenir s'il n'y avait pas un changement. Mais ils pouvaient évaluer leur conduite personnelle. J'ai voulu terminer avec 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 10. 2 Pierre, chapitre 3, et le verset 10, où il est question d'une prophétie qui va se réaliser même après le millénium, après la période du grand trône blanc. Nous lisons dans le verset 10 ce qui va arriver. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Et ensuite, le verset 11. Puis donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, ça va se réaliser, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté, dans le contexte donc d'une prophétie, qu'elle ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant et attend l'événement du jour de Dieu. Jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera un monde tout nouveau. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Attends l'événement du jour de Dieu par notre comportement, en développant justement le caractère de Dieu en attendant, puisque ces prophéties sont certaines. Puisqu'elles vont se réaliser, c'est une incitation pour nous de changer.